Pascal, les provinciales. Seconde lettre écrite à un provincial par un de ses amis. De Paris, ce 29 janvier 1656. Monsieur, comme je fermais la lettre que je vous ai écrite, je fus visité par Monsieur N., notre ancien ami, le plus heureusement du monde pour ma curiosité, car il est très informé des questions du temps, et il sait parfaitement le secret des jésuites, chez qui il est à toute heure et avec les principaux. Après avoir parlé de ce qui l'amenait chez moi, je le priai de me dire en un mot quels sont les points débattus entre les deux parties. Il me satisfit sur l'heure et me dit qu'il y en avait deux principaux. Le premier touchant le pouvoir prochain, le second touchant la grâce suffisante. Je vous ai éclairci du premier par la précédente, je vous parlerai du second dans celle-ci. Je sus donc en un mot que leur différend touchant la grâce suffisante est en ce que les jésuites prétendent qu'il y a une grâce donnée généralement à tous les hommes, soumise de telle sorte au libre arbitre, qu'il la rend efficace ou inefficace à son choix, sans aucun nouveau secours de Dieu, et sans qu'il manque rien de sa part pour agir effectivement. Ce qui fait qu'il l'appelle suffisante, parce qu'elle seule suffit pour agir. Et que les jansénistes, au contraire, veulent qu'il n'y ait aucune grâce actuellement suffisante qui ne soit aussi efficace, c'est-à-dire que toutes celles qui ne détermineraient point la volonté à agir effectivement sont insuffisantes pour agir, parce qu'ils disent qu'on n'agit jamais sans grâce efficace. Voilà leur différend. Et m'informant après de la doctrine des nouveaux thomistes, « Elle est bizarre, me dit-il. Ils sont d'accord avec les jésuites d'admettre une grâce suffisante donnée à tous les hommes, mais ils veulent néanmoins que les hommes n'agissent jamais avec cette seule grâce et qu'il faille pour les faire agir que Dieu leur donne une grâce efficace qui détermine réellement leur volonté à l'action et laquelle Dieu ne donne pas à tous. De sorte que, suivant cette doctrine, lui dis-je, cette grâce est suffisante sans l'être. Justement, me dit-il, car si elle suffit, il n'en faut pas davantage pour agir, et si elle ne suffit pas, elle n'est pas suffisante. Mais, lui dis-je, quelle différence y a-t-il donc entre eux et les jansénistes? Ils diffèrent, me dit-il, en ce qu'au moins les dominicains ont cela de bon qu'ils ne laissent pas de dire que tous les hommes ont la grâce suffisante. J'entends bien, répondis-je, mais ils le disent sans le penser, puisqu'ils ajoutent qu'il faut nécessairement pour agir avoir une grâce efficace qui n'est pas donnée à tous. Ainsi, s'ils sont conformes aux jésuites par un terme qui n'a pas de sens, ils leur sont contraires et conformes aux jansénistes dans la substance de la chose. « Cela est vrai, dit-il. Comment donc, lui dis-je, les jésuites sont-ils unis avec eux, et que ne les combattent-ils aussi bien que les jansénistes, puisqu'ils auront toujours en eux de puissants adversaires, lesquels, soutenant la nécessité de la grâce efficace qui détermine, les empêcheront d'établir celle qu'ils veulent être seule suffisante ?» Les dominicains sont trop puissants, me dit-il, et la société des jésuites est trop politique pour les choquer ouvertement. Elles se contentent d'avoir gagné sur eux qu'ils admettent au moins le nom de grâce suffisante, quoi qu'ils l'entendent en un autre sens. Par là, elle a cet avantage qu'elle fera passer leur opinion pour insoutenable, quand elle le jugera à propos, et cela lui sera aisé. Car supposer que tous les hommes aient des grâces suffisantes, il n'y a rien de plus naturel que d'en conclure que la grâce efficace n'est donc pas nécessaire pour agir, puisque la suffisance de ces grâces générales exclurait la nécessité de toutes les autres. Qui dit suffisant marque tout ce qui est nécessaire pour agir. et il servirait de peu aux dominicains de s'écrier qu'ils donnent un autre sens au mot « suffisant ». Le peuple, accoutumé à l'intelligence commune de ce terme, n'écouterait pas seulement leur explication. Ainsi, la société profite assez de cette expression que les dominicains reçoivent sans les pousser davantage. Et si vous aviez la connaissance des choses qui se sont passées sous les papes Clément VIII et Paul V, et combien la société fut traversée dans l'établissement de sa grâce suffisante par les dominicains, vous ne vous étonneriez pas de voir qu'elle ne se brouille pas avec eux et qu'elle consent qu'ils gardent leur opinion pourvu que la sienne soit libre et principalement quand les dominicains la favorisent par le nom de grâce suffisante dont ils ont consenti de se servir publiquement. Elle est bien satisfaite de leur complaisance. Elle n'exige pas qu'ils nient la nécessité de la grâce efficace. Ce serait trop les presser. Il ne faut pas tyranniser ses amis. Les jésuites ont assez gagné, car le monde se paye de paroles. Peu approfondissent les choses. Et ainsi le nom de grâce suffisante étant reçu des deux côtés, quoique avec divers sens, il n'y a personne hors les plus fins théologiens qui ne pense que la chose que ce mot signifie soit tenue aussi bien par les jacobins que par les jésuites. Je lui avouai que c'était d'habile Jean, et pour profiter de son avis, je m'en allai droit aux jacobins, où je trouvai à la porte un de mes bons amis, grand janséniste, car j'en ai de tous les partis, qui demandait quelque autre père que celui que je cherchais. Mais je l'engageai à m'accompagner à force de prière et demandai un de mes nouveaux thomistes. Il fut ravi de me revoir. « Eh bien, mon père, lui dis-je, ce n'est pas assez que tous les hommes aient un pouvoir prochain ? Par lequel pourtant ils n'agissent en effet jamais, il faut qu'ils aient encore une grâce suffisante avec laquelle ils agissent aussi peu. N'est-ce pas là l'opinion de votre école ? Oui, dit le bon père, et je l'ai bien dit ce matin en Sorbonne. J'y ai parlé toute ma demi-heure, et sans le sable, j'eusse bien fait changer ce malheureux proverbe qui court déjà dans Paris. Il opine du bonnet comme un moine en Sorbonne. Et que voulez-vous dire par votre demi-heure et par votre sable, lui répondis-je. Taille-t-on vos avis à une certaine mesure? Oui, me dit-il, depuis quelques jours. Et vous oblige-t-on de parler demi-heure? Non, on parle aussi peu qu'on veut, mais non pas tant que l'on veut, lui dis-je. Oh, la bonne règle pour les ignorants! Ô l'honnête prétexte pour ceux qui n'ont rien de bon à dire. Mais enfin, mon père, cette grâce donnée à tous les hommes est suffisante? Oui, dit-il, et néanmoins elle n'a nul effet sans grâce efficace. Cela est vrai, dit-il, et tous les hommes ont la suffisante, continuai-je, et tous n'ont pas l'efficace. Il est vrai, dit-il. C'est-à-dire, lui dis-je, que tous ont assez de grâce et que tous n'en ont pas assez. C'est-à-dire que cette grâce suffit, quoiqu'elle ne suffise pas. C'est-à-dire qu'elle est suffisante de nom et insuffisante en effet. En bonne foi, mon père, cette doctrine est bien subtile. Avez-vous oublié, en quittant le monde, ce que le mot de suffisant y signifie? Ne vous souvient-il pas qu'il enferme tout ce qui est nécessaire pour agir? Mais vous n'en avez pas perdu la mémoire, car pour me servir d'une comparaison qui vous sera plus sensible, si l'on ne vous servait à table que 2 onces de pain et 1 verre d'eau par jour, seriez-vous content de votre prieur, qui vous dirait que cela serait suffisant pour vous nourrir, sous prétexte qu'avec autre chose qu'il ne vous donnerait pas, vous auriez tout ce qui vous serait nécessaire pour vous nourrir ? Comment donc vous laissez-vous aller à dire que tous les hommes ont la grâce suffisante pour agir, puisque vous confessez qu'il y en a une autre absolument nécessaire pour agir, que tous n'ont pas? Est-ce que cette créance est peu importante, et que vous abandonnez à la liberté des hommes de croire que la grâce efficace est nécessaire ou non? Est-ce une chose indifférente de dire qu'avec la grâce suffisante, on agit en effet ? Comment, dit ce bonhomme, indifférente ? C'est une hérésie formelle. La nécessité de la grâce efficace pour agir effectivement est de foi. Il y a hérésie à la nier. Où en sommes-nous donc, m'écriai-je, et quelle partie dois-je ici prendre ? Si je nie la grâce suffisante, je suis janséniste. Si je l'admets comme les jésuites, en sorte que la grâce efficace ne soit pas nécessaire, je serai hérétique, dites-vous. Et si je l'admets comme vous, en sorte que la grâce efficace soit nécessaire, je pèche contre le sens commun et je suis extravagant, disent les jésuites. Que dois-je donc faire dans cette nécessité inévitable d'être ou extravagant, ou hérétique, ou janséniste ? Et en quels termes sommes-nous réduits s'il n'y a que les jansénistes qui ne se brouillent ni avec la foi, ni avec la raison, et qui se sauvent tout ensemble de la folie et de l'erreur ? Mon ami janséniste prenait ce discours à bon présage, et me croyait déjà gagné. Il ne me dit rien néanmoins, mais en s'adressant à ce père, « Dites-moi, je vous prie, mon père, en quoi vous êtes conforme aux jésuites ?»« C'est, dit-il, en ce que les jésuites et nous reconnaissons les grâces suffisantes données à tous. » Mais, lui dit-il, il y a deux choses dans ce mot de grâce suffisante. Il y a le son, qui n'est que du vent, et la chose qu'il signifie, qui est réelle et effective. Et ainsi, quand vous êtes d'accord avec les jésuites touchant le mot de suffisante, et que vous leur êtes contraire dans le sens, il est visible que vous êtes contraire touchant la substance de ce terme, et que vous n'êtes d'accord que du son. Est-ce là agir sincèrement et cordialement ? Mais quoi ? Dit le bonhomme, de quoi vous plaignez-vous, puisque nous ne trahissons personne par cette manière de parler ? Car dans nos écoles, nous disons ouvertement que nous l'entendons d'une manière contraire aux jésuites. Je me plains, lui dit mon ami, de ce que vous ne publiez pas de toutes parts, que vous entendez par grâce suffisante la grâce qui n'est pas suffisante. Vous êtes obligé en conscience, en changeant ainsi le sens des termes ordinaires de la religion, de dire que, quand vous admettez une grâce suffisante dans tous les hommes, vous entendez qu'ils n'ont pas des grâces suffisantes en effet. Tout ce qu'il y a de personnes au monde entendent le mot de suffisant en un même sens. Les seuls nouveaux thomistes l'entendent en un autre. Toutes les femmes qui font la moitié du monde, tous les gens de la cour, tous les gens de guerre, tous les magistrats, tous les gens de palais, les marchands, les artisans, tout le peuple, enfin toutes sortes d'hommes, excepté les dominicains, entendent par le mot de suffisant ce qui enferme tout le nécessaire. Presque personne n'est averti de cette singularité. On dit seulement par toute la terre que les jacobins tiennent que tous les hommes ont des grâces suffisantes. Que peut-on conclure de là, sinon qu'ils tiennent que tous les hommes ont toutes les grâces qui sont nécessaires pour agir, et principalement en les voyant joints d'intérêt et d'intrigue avec les jésuites, qu'ils l'entendent de cette sorte. L'uniformité de vos expressions, jointe à cette union de parties, n'est-elle pas une interprétation manifeste et une confirmation de l'uniformité de vos sentiments ? Tous les fidèles demandent aux théologiens quel est le véritable état de la nature depuis sa corruption. Saint Augustin et ses disciples répondent qu'elle n'a plus de grâce suffisante autant qu'il plaît à Dieu de lui en donner. Les jésuites sont venus ensuite et disent que tous ont des grâces effectivement suffisantes. On consulte les dominicains sur cette contrariété. Que font-ils là-dessus ? Ils s'unissent aux jésuites. Ils font par cette union le plus grand nombre. Ils se séparent de ceux qui nient ces grâces suffisantes. Ils déclarent que tous les hommes en ont. Que peut-on penser de là, sinon qu'ils autorisent les jésuites ? Et puis ils ajoutent que néanmoins ces grâces suffisantes sont inutiles sans les efficaces qui ne sont pas données à tous. Voulez-vous voir une peinture de l'Église dans ses différents avis? Je la considère comme un homme qui, partant de son pays pour faire un voyage, est rencontré par des voleurs qui le blessent de plusieurs coups et le laissent à demi-mort. Il envoie quérir 3 médecins dans les villes voisines. Le premier, ayant sondé ses plaies, les juge mortelles et lui déclare qu'il n'y a que Dieu qui lui puisse rendre ses forces perdues. Le second, arrivant ensuite, voulut le flatter et lui dit qu'il avait encore des forces suffisantes pour arriver en sa maison, et, insultant contre le premier, qui s'opposait à son avis, forma le dessein de le perdre. Le malade, en cet état douteux, apercevant de loin le troisième, lui tend les mains comme à celui qui le devait déterminer. Celui-ci, ayant considéré ses blessures et su l'avis des deux premiers, embrasse le second, s'unit à lui, et tous deux ensemble se liguent contre le premier et le chassent honteusement, car ils étaient plus forts en nombre. Le malade juge à ce procédé qu'il est de l'avis du second, et, le lui demandant en effet, il lui déclare affirmativement que ses forces sont suffisantes pour faire son voyage. Le blessé, néanmoins, ressentant sa faiblesse, lui demande à quoi il les jugeait-elle. « C'est, lui dit-il, parce que vous avez encore vos jambes. Or, les jambes sont les organes qui suffisent naturellement pour marcher. » « Mais, lui dit le malade, ai-je toute la force nécessaire pour m'en servir? Car il me semble qu'elles sont inutiles dans ma longueur. » « Non, certainement, dit le médecin, et vous ne marcherez jamais, effectivement, si Dieu ne vous envoie un secours extraordinaire pour vous soutenir et vous conduire. » « Eh quoi, dit le malade, je n'ai donc pas en moi les forces suffisantes et auxquelles il ne manque rien pour marcher effectivement ?» « Vous en êtes bien éloigné, lui dit-il. Vous êtes donc, dit le blessé, d'avis contraire à votre compagnon touchant mon véritable état. »« Je vous l'avoue, lui répondit-il. » »« Que pensez-vous que dit le malade ? Il se plaignit du procédé bizarre et des termes ambigus de ce troisième médecin. Il le blâma de s'être uni au second, à qui il était contraire de sentiment et avec lequel il n'avait qu'une conformité apparente, et d'avoir chassé le premier auquel il était conforme en effet. Et, après avoir fait essai de ses forces et reconnu par expérience la vérité de sa faiblesse, il les renvoya tous deux. Et, rappelant le premier, se mit entre ses mains et suivant son conseil, il demanda à Dieu les forces qu'il confessait n'avoir pas. Il en reçut miséricorde et par son secours arriva heureusement dans sa maison. Le bon père, étonné d'une telle parabole, ne répondait rien. Et je lui dis doucement pour le rassurer. « Mais après tout, mon père, à quoi avez-vous pensé de donner le nom de suffisante à une grâce que vous dites qu'il est de foi de croire qu'elle est insuffisante en effet ?»« Vous en parlez, dit-il, bien à votre aise, vous êtes libre et particulier. Je suis religieux et en communauté. » N'en savez-vous pas peser la différence? Nous dépendons des supérieurs, ils dépendent d'ailleurs, ils ont promis nos suffrages, que voulez-vous que je devienne? Nous l'entendîmes à demi-mot, et cela nous fit souvenir de son confrère qui a été relégué à Abbeville pour un sujet semblable. Mais, lui dis-je, pourquoi votre communauté s'est-elle engagée à admettre cette grâce? « C'est un autre discours, me dit-il. Tout ce que je vous en puis dire en un mot est que notre ordre a soutenu autant qu'il a pu la doctrine de saint Thomas touchant la grâce efficace. Combien s'est-il opposé ardemment à la naissance de la doctrine de Molina? Combien a-t-il travaillé pour l'établissement de la nécessité de la grâce efficace de Jésus-Christ? Ignorez-vous ce qui se fit sous Clément VIII et Paul V? Et que, la mort prévenant l'un et quelques affaires d'Italie empêchant l'autre de publier sa bulle, nos armes sont demeurées au Vatican. Mais les jésuites qui, dès le commencement de l'hérésie de Luther et Calvin, s'était prévalu du peu de lumière qu'a le peuple pour en discerner l'erreur d'avec la vérité de la doctrine de saint Thomas, avaient en peu de temps répandu partout leur doctrine avec un tel progrès qu'on les vit bientôt maîtres de la créance des peuples. Et nous, en état d'être décriés comme des calvinistes et traités comme les jansénistes le sont aujourd'hui, si nous ne tempérions la vérité de la grâce efficace par l'aveu, au moins apparent, d'une suffisante. Dans cette extrémité, que pouvions-nous mieux faire pour sauver la vérité sans perdre notre crédit, sinon d'admettre le nom de grâce suffisante, en niant néanmoins qu'elle soit telle en effet? Voilà comment la chose est arrivée. Il nous dit cela si tristement qu'il me fit pitié, mais non pas à mon second qui lui dit « Ne vous flattez point d'avoir sauvé la vérité, si elle n'avait point eu d'autre protecteur, elle serait périe en des mains si faibles. Vous avez reçu dans l'Église le nom de son ennemi, c'est y avoir reçu l'ennemi même. Les noms sont inséparables des choses. Si le mot de grâce suffisante est une fois affermi, vous aurez beau dire que vous entendez par là une grâce qui est insuffisante, vous n'y serez pas reçu. Votre explication serait odieuse dans le monde. On y parle plus sincèrement des choses moins importantes. Les jésuites triompheront, ce sera leur grâce suffisante en effet, et non pas la vôtre qui ne l'est que de nom, qui passera pour établi. Et on fera un article de foi du contraire de votre créance. Nous souffririons tous le martyre, lui dit le père, plutôt que de consentir à l'établissement de la grâce suffisante au sens des jésuites. Saint Thomas, que nous jurons de suivre jusqu'à la mort, y étant directement contraire. À quoi mon ami, plus sérieux que moi, lui dit « Allez, mon père, votre ordre a reçu un honneur qu'il ménage mal. Il abandonne cette grâce qui lui avait été confiée et qui n'a jamais été abandonnée depuis la création du monde. Cette grâce victorieuse qui a été attendue par les patriarches, prédite par les prophètes, apportée par Jésus-Christ, prêchée par saint Paul, expliquée par saint Augustin, le plus grand des pères, maintenue par ceux qui l'ont suivie, confirmée par saint Bernard, le dernier des pères, soutenue par saint Thomas, l'ange de l'école, transmise de lui à votre ordre, appuyée par tant de vos pères, et si glorieusement défendue par vos religieux sous les papes Clément et Paul. Cette grâce efficace qui avait été mise comme en dépôt entre vos mains, pour avoir dans un saint ordre à jamais durable des prédicateurs qui la publiassent au monde jusqu'à la fin des temps, se trouve comme délaissé pour des intérêts si indignes. Il est temps que d'autres mains s'arment pour sa querelle. Il est temps que Dieu suscite des disciples intrépides aux saints docteurs de la grâce qui, ignorant les engagements du siècle, servent Dieu pour Dieu. La grâce peut bien n'avoir plus les dominicains pour défenseurs, mais elle ne manquera jamais de défenseurs, car elle les forme elle-même par sa force toute-puissante. Elle demande des cœurs purs et dégagés, et elle-même les purifie et les dégage des intérêts du monde, incompatibles avec les vérités de l'Évangile. Pensez-y bien, mon père, et prenez garde que Dieu ne change ce flambeau de sa place, et qu'il ne vous laisse dans les ténèbres et sans couronne, pour punir la froideur que vous avez pour une cause si importante à son Église. » Il en eût dit bien davantage, car il s'échauffait de plus en plus. Mais je l'interrompis et dis en me levant, « En vérité, mon père, si j'avais du crédit en France, je ferais publier à son de trompe. On fait à savoir que, quand les Jacobins disent que la grâce suffisante est donnée à tous, ils entendent que tous n'ont pas la grâce qui suffit effectivement. Après quoi, vous le diriez autant qu'il vous plairait, mais non pas autrement. » Ainsi finit notre visite. Vous voyez donc par là que c'est ici une suffisance politique, pareille au pouvoir prochain. Cependant, je vous dirai qu'il me semble qu'on peut sans péril douter du pouvoir prochain et de cette grâce suffisante, pourvu qu'on ne soit pas jacobin. En fermant ma lettre, je viens d'apprendre que la censure est faite. Mais comme je ne sais pas encore en quels termes et qu'elle ne sera publiée que le 15 février, je ne vous en parlerai que par le premier ordinaire. Je suis, etc. Réponse du provincial aux deux premières lettres de son ami. Du 2 février 1656. Monsieur, vos deux lettres n'ont pas été pour moi seules. Tout le monde les voit, tout le monde les entend, tout le monde les croit. Elles ne sont pas seulement estimées par les théologiens, elles sont encore agréables aux gens du monde et intelligibles aux femmes mêmes. Voici ce que m'en écrit un des messieurs de l'Académie, des plus illustres entre ces hommes tous illustres, qui n'avaient encore vu que la première. Je voudrais que la Sorbonne, qui doit tant à la mémoire de feu monsieur le cardinal, voulût reconnaître la juridiction de son Académie française. L'auteur de la lettre serait content, car en qualité d'académicien, je condamnerai d'autorité, je bannirai, je proscrirai, peu s'en faut que je ne dis, j'exterminerai de tout mon pouvoir ce pouvoir prochain qui fait tant de bruit pour rien, et sans savoir autrement ce qu'il demande. Le mal est que notre pouvoir académique est un pouvoir fort éloigné et borné. J'en suis mari, et je le suis encore beaucoup de ce que tout mon petit pouvoir ne saurait m'acquitter envers vous, etc. Et voici ce qu'une personne, que je ne vous marquerai en aucune sorte, en écrit à une dame qui lui avait fait tenir la première de vos lettres. Je vous suis plus obligé que vous ne pouvez vous l'imaginer de la lettre que vous m'avez envoyée. Elle est tout à fait ingénieuse et tout à fait bien écrite. Elle narre sans arrêt. Elle éclaircit les affaires du monde les plus embrouillées. Elle raille finement. Elle instruit même ceux qui ne savent pas bien les choses. Elle redouble le plaisir de ceux qui les entendent. Elle est encore une excellente apologie et, si l'on veut, une délicate et innocente censure. Et il y a enfin tant d'art, tant d'esprit et tant de jugement en cette lettre que je voudrais bien savoir qui l'a faite, etc. Vous voudriez bien aussi savoir qui est la personne qui en écrit de la sorte. Mais contentez-vous de l'honorer sans la connaître, et quand vous la connaîtrez, vous l'honorerez bien davantage. Continuez donc vos lettres sur ma parole, et que la censure vienne quand il lui plaira. Nous sommes fort bien disposés à la recevoir. Ces mots de pouvoir prochain et de grâce suffisante dont on nous menace ne nous feront plus de peur. Nous avons trop appris des jésuites, des jacobins et de monsieur le moine en combien de façons on les tourne et combien il y a peu de solidité en ces mots nouveaux pour nous en mettre en peine. Cependant, je serai toujours, etc.